France Info.
Bonjour Daniel Cohn-Bendit.
Bonjour messieurs.
Avant de parler de la campagne des européennes et de votre soutien à la liste menée par Nathalie Loiseau, un mot de la libération des deux otages français. Vendredi soir, Emmanuel Macron est allé les accueillir à leur descente d'avion, à leur arrivée en France. Est-ce qu'il a eu raison de le faire, malgré les risques qu'ils ont pris en allant là-bas ?
J'en sais rien. Franchement, j'en sais rien. C'est le genre de question que j'ai pas de réponse. Il a senti l'obligation et le devoir de le faire, c'est bien. S'il avait envoyé son ministre des Affaires étrangères, ça aurait été aussi possible. Je veux dire, moi, c'est le genre vraiment de débat qui me dépasse parce que j'ai aucune idée là-dessus. S'il le fait, il le fait. S'il le fait pas, il le fait pas.
Il y a quelqu'un qui a une idée, qui a une opinion sur cet événement. C'est Marine Le Pen. Elle l'a commenté en ces termes. C'était hier.
Le président de la République n'avait pas à les accueillir un petit peu comme des héros. Je pense que l'intégralité des hommages, en réalité, aurait dû être réservée à ces deux militaires d'élite.
Qu'est-ce que vous pensez de cette polémique ?
Écoutez, c'est le genre de polémique qui, moi, ne m'intéresse pas. Évidemment que les héros, ce sont les soldats. Maintenant, il y a deuxième polémique. Est-ce que les touristes étaient dans zone orange, jaune, mi-rouge, mi-rouge ? Enfin, on peut continuer à l'infini. Je crois qu'il y a d'énormes problèmes. C'est dramatique quand il y a des otages. Et tout le monde le sait que ou on arrive à les libérer rapidement, ou c'est extrêmement difficile et du chantage, etc. Et que grâce aux informations visiblement des Américains, c'est eux qui ont donné les informations pour qu'on puisse les libérer. Donc voilà, puis arrêtons ce genre de... Enfin, moi, ça ne m'intéresse pas.
La campagne est dominée, et je dis ça après qu'on vous ait posé une question sur un enjeu national en France par des questions avant tout nationales. Est-ce que c'est le cas également chez nos amis et voisins allemands ? Est-ce que vous trouvez que la campagne a meilleure allure de l'autre côté de la frontière ?
Disons que la campagne en Allemagne est absolument différente dans le sens que en fait, vous avez qu'un parti vraiment eurosceptique qui est l'extrême droite. L'alternative pour l'Allemagne. Sinon, vous avez, disons, des sensibilités différentes pro-européennes. C'est une campagne qui, est marquée par une question centrale. C'est pourquoi l'inertie de la chancelière sur l'Europe. Et donc là, les sociodémocrates et les Verts, il faut savoir qu'en Allemagne, le deuxième parti en ce moment dans les sondages, ce sont les Verts.
Pas en France, hein.
Pas en France, oui, justement. Il faut savoir qu'il y a une grande différence. Bon, questionne le positionnement, critique par exemple Madame Merkel sur le fait qu'elle n'ait pas signé l'initiative française augmenter la vitesse sur, sur la transition écologique. Voilà le débat.
Qui soutenez-vous en Allemagne ?
Les Verts.
Les Verts. Et pourquoi en France, c'est pas le cas ?
Parce que je suis schizo.
Vous avez deviné la suite de ma question.
Comment ?
Vous avez deviné la suite de ma question.
Oui. Non, pour la simple raison que, moi j'estime que en se positionnant dans sa campagne présidentielle sur l'Europe, Emmanuel Macron a pris des initiatives au niveau européen qui sont très importantes. Et je crois qu'en France, il faut renforcer ces initiatives par le résultat aux européennes. Voilà le pari que je fais.
Qu'est-ce qui vous plaît pas chez les Verts français aujourd'hui ?
D'abord, les Verts français, c'est une secte. Ils étaient 10 000 il y a 5 ans, ils sont 3 000.
Une secte que vous avez, Daniel Cohn-Bendit, mais contribué à créer en France.
Oui, j'ai créé.
Ouais, vous êtes le gourou, hein.
J'étais le gourou. On a fait, ma mémoire ne flanche pas trop, plus de 16% en 2009.
Mais une secte, c'est extrêmement violent comme attaque. Pourquoi c'est une secte ?
Parce qu'ils se comportent comme cela. Écoutez, les 10 derniers secrétaires nationaux des Verts ne sont plus membres des Verts. Ils sont quittés pour des raisons différentes. Gauche, droite, en haut, en bas, etc. Les 10 derniers. Quand on n'est plus que 3 000 au lieu d'être 10 000. C'est-à-dire que... Je ne crois pas que les Verts, en l'état, malgré la qualité de Yannick Jadot...
Mais Yannick Jadot, c'est lui, c'est vous qui l'avez fait élire il y a 10 ans au Parlement européen.
Non seulement... Non, je ne l'ai pas fait élire, il était avec nous.
Il était sur
nous.
Votre liste, oui.
Il était tête de liste
dans
à
une
l'Ouest.
Des régions.
Yannick Jadot est un très bon copain, mais je trouve que la manière dont il mène sa liste en tapant tous les jours à droite et à gauche sur tout le monde, etc., c'est pas ce que moi j'espère d'une liste écologiste qui s'ouvre et qui et la liste elle n'est pas ouverte. Nous on avait surpris en ouvrant, on avait surpris parce qu'on était sympa, parce que c'est on donnait envie de l'Europe. Aujourd'hui,
il n'est pas sympa Yannick Jadot.
Dans la manière où il est, il y a deux Yannick Jadot. Il y a Yannick Jadot Europe Écologie ouvert et dans son travail réel au Parlement européen, et il y a Yannick Jadot Greenpeace. Il faut taper.
Et là, c'est le Greenpeace qui a pris le pas sur l'Europe Écologie Les Verts.
C'est le plus, c'est-à-dire qu'il explique pas. Enfin, franchement, quand il dit, quand il apprend que Pascal Canfin, je comprends que c'est dur pour lui, et Pascal Durand vont sur la liste,
de
Nathalie Loiseau, bon, ça le touche, que je comprends. Mais de dire, ils vont à la soupe, et ils ont quitté l'écologie, il est palpable de l'écologie. Il peut pas excommunier quelqu'un. C'est pas parce qu'il est tête de liste Europe Écologie Les Verts qu'il est le seul écologiste au monde et qu'il ait le droit maintenant d'excommunier à droite et à gauche.
Elle n'appartient pas aux Verts, l'écologie, aujourd'hui?
Non, mais si elle n'appartient qu'aux Verts, on a perdu. S'il n'y a que les Verts qui défendent la transition écologie, on rentre à la maison, on a perdu.
Et Emmanuel Macron, il est écologiste aujourd'hui, à vos yeux?
Il l'était pas. Il est devenu, mais Renaud Dely n'est pas né écologiste. Je ne sais pas s'il l'est aujourd'hui.
Il est devenu grâce à quoi, écolo Emmanuel Macron? Grâce aux Gilets jaunes?
Non, il est avant.
Grâce à qui? Grâce à vous?
Non, pas grâce.
Quand s'est fait la conversion?
Il y a une évolution intellectuelle d'Emmanuel Macron. Déjà pendant la campagne, on a commencé à en discuter, la campagne présidentielle. Mmh. Il hésitait et après, il a compris qu'il y avait quelque chose qui manquait. Qui lui manquait politiquement, c'est pour ça qu'il a appelé Nicolas Hulot.
Qui est parti?
Oui, mais qui a eu d'énormes influences sur lui. Il y a eu une énorme influence. Vous savez, Nicolas Hulot, c'est spécial aussi. Hein, c'est spécial. Donc, il n'est pas parti simplement parce qu'il dit Macron n'est pas. Il avait des problèmes avec Édouard Philippe. L'évolution d'Édouard Philippe n'est pas au même rythme, peut-être, que l'évolution d'Emmanuel Macron en ce qui concerne l'écologie. Donc, intellectuellement, maintenant, il a compris. Et je crois qu'avec les Gilets jaunes, il a repris une question qui est très difficile à résoudre. C'est comment on persuade la société de la transition écologique. Parce qu'il n'y a pas de dire, il n'y a qu'à faire une taxe CO2, il n'y a qu'à faire ceci, il n'y a qu'à faire cela, etc. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, c'est le problème en Allemagne, quand vous voyez sur la transition sortir du charbon, il faut gagner une majorité de la société. Et ça, c'est extrêmement difficile.
David Doba, pour le rappel de l'actualité à 8h41, et on poursuit cet entretien avec vous, Daniel Cohn-Bendit, dans quelques instants.
Les corps des deux soldats français tués dans la nuit de jeudi à vendredi de retour dans l'Hexagone hier. Avant l'hommage national qui leur sera rendu demain, une cérémonie militaire se tient cet après-midi aux Invalides en présence des familles. Leur procès doit durer 6 semaines. Patrick Balkany est jugé à partir d'aujourd'hui à Paris. Sa femme Isabelle doit comparaître si son état de santé le permet. La justice s'intéresse notamment à de luxueuses villas au Maroc et dans les Caraïbes. Selon les juges, Patrick Balkany était à la tête d'un réseau de sociétés offshore mis en place dans les années 80. Sur France Info ce matin, Jean-Christophe Picard, le président de l'association Anticor, estime que la justice signe la fin de la récréation et qu'il faut maintenant qu'ils assument leurs actes. Le projet de réforme de la fonction publique arrive pour 2 semaines à l'Assemblée nationale. 1 millier d'amendements ont été déposés. Et puis de plus en plus de personnes LGBT se disent victimes d'agressions physiques. C'est ce qui ressort d'une enquête de l'IFOP. En exclusivité ce matin, France Info et Le Monde vous dévoilent que 55% des personnes interrogées affirment avoir été agressées verbalement ou physiquement au cours de leur vie.
L'ancien député européen Daniel Cohn-Bendit est l'invité de France Info jusqu'à 9h avec Renaud Dely à mes côtés.
Vous évoquiez à l'instant la conversion à la transition écologique d'Emmanuel Macron. Il y a une étude de la Commission européenne qui propose aujourd'hui de taxer le kérosène des avions. Selon cette étude, c'est une taxation en l'occurrence de 33 centimes d'euros par litre permettrait de diminuer à terme de 10% les émissions de CO2 du secteur aérien. Est-ce qu'il faut taxer effectivement le kérosène. Vous savez que Nathalie Loiseau penche notamment pour l'instauration d'une taxe sur les vols intérieurs à l'Union européenne.
Elle dit ça parce que c'est les seules taxes que, enfin, possibles. Il y a deux niveaux, mais moi je suis. Il faut taxer.
Il faut le faire.
Oui, absolument.
Mais on peut le faire sans l'accord de nos partenaires européens.
Non.
Donc on va pas le faire.
Non, c'est pas vrai parce que c'est aujourd'hui c'est dans le programme de plusieurs partis, même en Allemagne, c'est une vraie discussion. Même l'Allemagne est en train de discuter une taxe de CO2.
Mais il faut l'unanimité de nos partenaires européens pour faire passer telle taxe.
Non.
La majorité qualifiée,
c'est une question d'environnement. C'est une majorité qui suffit.
Et la France peut gagner une majorité à l'Europe au sein de l'Union européenne pour taxer le kérosène.
Il n'y a pas que la France. Il y a plusieurs pays qui le propose aujourd'hui, les Hollandais le proposent, etc. Donc, je crois que c'est quelque chose qui est possible et qui va se faire. Qui va se faire parce que, justement, il y a l'Europe, pour tenir ses engagements de l'accord de Paris, doit limiter l'effet de serre. Et donc, c'est une des mesures qui permettra une des multiples mesures nécessaires. Donc, je crois qu'il n'y a aucun problème. Le problème, c'est comment taxer et obliger les avions américains, chinois, enfin ceux qui viennent d'hors d'Europe pour atterrir, est-ce que, comment, et là il faut un accord, disons, planétaire. Donc c'est ça qui est plus difficile. Donc on peut taxer les vols aériens en Europe, et comment on fait pour aller, c'est ça toute la discussion du savoir-faire.
Donc il faut des taxes pour faire davantage de transition écologique.
Absolument.
Donc est-ce que ça risque pas de rendre l'écologie un peu plus impopulaire encore?
Mais le problème, il est...
C'est ce que Ségolène Royal a appelé l'écologie punitive.
Non,
taxer,
mais
taxer, taxer.
Écoutez, vous payez des impôts, vous avez des taxes. Vous avez des taxes. Alors, c'est l'État est punitif, parce que pourquoi payer des infos? C'est dégueulasse de payer des infos. Et puis, sur le tabac, vous payez, il y a des taxes. Sur l'alcool, c'est dégueulasse de payer. Enfin, je veux dire, les taxes, c'est une manière de réguler. Alors maintenant, il y a des effets sociaux de certaines taxes qu'il faut arriver. C'est pour ça que quand Emmanuel Macron propose à l'Élysée une nouvelle méthode de dire on va proposer à une assemblée de citoyens plusieurs mesures pour justement réduire les gaz à effet de serre, donc réduire la pollution, eh bien ces citoyens vont après choisir et définir un cadre. C'est ce qu'ont fait les Irlandais. Et avec succès aussi bien pour leur transition écologiste que pour d'ailleurs leur référendum sur l'avortement, c'est ce que les Danois ont fait. Donc voilà, la vraie question, c'est comment travailler dans la société, trouver un consensus avec la société. C'est ça qui a manqué, si vous voulez, avant la crise des Gilets jaunes.
Daniel Cohn-Bendit, depuis le début de la campagne, Emmanuel Macron a choisi son adversaire. C'est Marine Le Pen, il s'adresse à lui, y compris à l'étranger, comme on l'a vu la semaine dernière en marge d'un sommet européen. Est-ce qu'il a raison de dramatiser à ce point l'enjeu de l'élection, elle ou moi, les progressistes l'extrême droite, les nationalistes au pouvoir en Europe?
Écoutez, de toute façon, c'est comme ça. Arrêtez. Si vous avez des sondages qui vous donnent à touche-touche et à égalité, Rassemblement National, et tout le monde dira c'est une lutte entre les deux. Et d'ailleurs, avant qu'ils le disent, à chaque fois qu'on me posait des questions, on me posait des questions sur En Marche ou le Rassemblement National. Que les autres listes soient pas d'accord, c'est compréhensible, je ferais exactement la même chose à leur place, mais il y aura plusieurs lectures du résultat des élections européennes. C'est quel est le parti qui est devant? Il y a une autre chose que vous pouvez me dire. Ça n'a aucune importance.
Ça ne changera rien, le Rassemblement National en tête.
Le FN était en tête il y a 5 ans.
Réel pour le Parlement européen. Que Marine Le Pen ait un siège de plus ou de moins que la liste d'En Marche, ne change rien.
Donc à quoi ça sert de dramatiser l'enjeu à ce point?
Parce qu'à ça, symboliquement, une importance que vous allez tous relever, les commentateurs. Ne faites pas les hypocrites et les naïfs.
Et que les électeurs d'Emmanuel Macron vous aux urnes un peu plus que les autres.
Arrêtez de me foutre de ma gueule. Enfin, il est évident que vous avez fait, reprenez tout ce que vous avez dit et écrit.
C'est du storytelling.
Non.
C'est ça.
Écoutez,
on raconte une histoire dans la campagne.
Reprenez tout ce que vous avez écrit et dit il y a 5 ans, quand Marine Le Pen était en tête. 24,9%, près de 25%, aux dernières élections européennes, loin devant loin devant les Républicains, loin devant les socialistes, etc. Vous en avez fait une histoire nationale. Mais lisez vos textes, lisez vos commentaires. Donc ne me racontez
Emmanuel
pas
Macron
l'histoire.
Macron n'est pas un commentateur de la vie politique, il est le chef de l'État.
Mais le chef de l'État sait que de toute façon, il sera mesuré dans les commentaires en France à ce niveau. Il y a deuxième chose qu'on doit dire, c'est que pour le Parlement européen, de toute façon, les 20, 21, 22 ou 23 ou 24 députés en marche qui feront de l'aile libérale, une aile libérale écologique au Parlement européen, aura un rôle très important au Parlement européen pour la transition écologiste, par exemple, avec les autres élus
mais
écologistes.
Il n'y a pas de risque, à vos yeux, d'une majorité nationaliste au Parlement européen ?
Mais non, mais de loin que non. Enfin, arrêtez.
Donc, il n'y a pas de risque d'extrême droite en Europe ?
Ici, ça gangrène le climat. Il y a une chose. Vous avez une extrême droite qui gangrène avec des pays où elles sont au pouvoir, la Hongrie. Vous avez un pays, Salvini. D'ailleurs, Salvini, ça me rassure pas parce qu'il est loin devant encore, mais il vient de perdre 6% dans les sondages. C'est-à-dire que c'est pas tout simplement possible pour lui parce qu'il y a en Italie. Mais c'est vrai qu'avec la Hongrie, avec l'Italie, avec la Pologne, je sais pas qui va y aller. La Pologne, c'est pas clair encore. Eh bien, vous aurez une force de vocifération au Parlement européen.
Avec un pouvoir de quoi
Rien.
Au sein de l'hémicycle de nuisance,
La
une
nuisance,
sorte d'opposition.
Oui. Non, il y a deux possibilités. Ou vous aurez environ 150, disons, sur 705 députés, disons, vociférants.
Un petit quart.
Un petit quart, ouais. Avec en plus la folie des Anglais dedans, des Brexiteurs qui vont à des élections voter pour nous pour qu'on parte le plus rapidement possible. Enfin c'est extraordinaire. Mais disons, ça fait un petit
groupe. Ce groupe de 150 eurodéputés.
Et ça pas un groupe. C'est pas si facile. Il y aura deux groupes qui seront ensemble 105. Vous avez le reste, c'est 705 députés. Eh bien, il va devoir. Ça dépend de l'intelligence du reste. C'est-à-dire du Parti populaire européen, des libéraux écolos, des socialistes, etc., de trouver sur des projets, comme le dit d'ailleurs Michel Barnier hier très bien dans le journal du dimanche, au Parlement européen, il faut trouver des majorités de projets. Il n'y a pas de majorité toute faite. Chaque projet, chaque directive, donc chaque loi, doit trouver sa majorité. Et donc, ça dépendra de l'intelligence. C'est pour ça que je dis, n'insultez pas l'avenir dans une campagne européenne. Vous êtes concurrent aujourd'hui, c'est normal, mais demain, vous serez obligé de travailler ensemble pour faire avancer l'Europe.
Il faudra peut-être travailler avec la secte de vos anciens amis écolos, comme vous l'avez qualifié il y a quelques instants.
Oui, mais
Allez vous retrouver, dans le même Parlement.
Mais c'est
a priori.
Ce que je dis. C'est tout mon discours. C'est pour ça que je dis à Yannick Jadot, n'insulte pas l'avenir. Mais vous savez, les Français, ils ont 7, 8 ou 9 élus d'un groupe d'une cinquantaine de parlementaires qui sera dominé par les Verts allemands. Les Verts allemands, qui sont quand même des Verts qui, dans le nord de l'Allemagne, sont en coalition avec la droite et les libéraux, à l'est de l'Allemagne, avec les communistes et les socialistes, dans le Land de Hesse, ils sont avec la CDU, donc ce sont des Verts. Si vous voulez, l'équivalent des Verts allemands en France serait que des Verts en Île-de-France disent, eh bien, on voit, vu le résultat des élections, on fait une coalition avec Pécresse. Et là, les Verts français vous disent jamais.
Ce qui semble difficile à imaginer en ce moment.
Mais il faut qu'ils y arrivent, sinon ils ne servent à rien.
Vous restez avec nous, 8h51, l'actualité résumée par David Doba.
Les panneaux installés depuis quelques jours dans toutes les communes de France, recouverts d'affiches à partir d'aujourd'hui. Début de la campagne officielle pour les européennes, les derniers sondages donnent la liste LREM et celle du Rassemblement National au coude à coude. Interrogé sur France Info, José Bové dénonce une sorte de propagande. Le député européen réagit à un rapport sénatorial sur le glyphosate qui doit être rendu jeudi. Le texte affirme que le caractère cancérogène du produit n'est pas prouvé. Patrick et Isabelle Balkany ont-ils ont-ils dissimulé 13 millions d'euros d'avoir au fisc, début de leur procès à Paris. Ils comparaissent dans un premier temps pour fraude fiscale, puis pour blanchiment aggravé. Leur fils Alexandre et trois autres prévenus sont également sur le banc des accusés. Des lycéens, mains sur la nuque, agenouillés de force par les forces de l'ordre. Les images avaient été filmées en marge d'une manifestation. Elle avait dégénéré, c'était le 6 décembre dernier à Mantes-la-Jolie. Début des auditions par la police des polices aujourd'hui. Et puis, ces grosses tensions. Hier soir à Marseille, l'OM a été sèchement battu par Lyon, 3-0. La défaite qui prive du coup les Olympiens de toute forme de Coupe d'Europe. Des affrontements se sont produits avec les forces de l'ordre.
France Info. Daniel Cohn-Bendit, on parlait de Michel Barnier il y a quelques instants. Est-ce que c'est votre candidat pour prendre la tête de la Commission européenne ?
Oui. Oui.
Quelqu'un qui ne vient pas de votre camp ?
Et mais oui, mais je veux quelqu'un. Moi, je crois que, d'ailleurs, beaucoup de nous l'avons connu quand il était commissaire. Il a une capacité de travailler avec tout le monde et il sait son Europe des projets. Il était ministre de l'Environnement. Il a une compréhension de la nécessité de la transition écologique. C'est pas absolument la mienne, mais s'il fallait que ça soit la mienne, on est mal barré non plus pour avoir des majorités. Donc il faut donc voilà, et je trouve que
quelle est la part de chauvinisme dans ce choix? Est-ce que c'est aussi parce qu'il est français?
Moi, je suis allemand. Je suis un Allemand qui propose Barnier.
Oui.
Non,
il y a pas une once de patriotisme pour peser notamment face aux Allemands au sein de la commission.
Si soutenais Weber, vous dites est-ce que c'est pas par patriotisme allemand avec moi, vous pouvez pas m'avoir comme ça. Non, c'est pas du tout cela. D'ailleurs, c'est parce que je crois qu'il est l'homme de la situation. D'abord, il a une capacité, regardez comment il a géré l'affaire du Brexit.
On n'a pas la fin, on n'a pas le dernier épisode.
Non, mais
on saura
la
fin.
Il a tenu les Européens ensemble. Mmh. C'est ça qui est extraordinaire. Il peut pas décider pour les Anglais. Si la classe politique anglaise se suicide, on peut pas faire porter le chapeau à Michel Barnier ou aux Européens. Ça, c'est autre chose. Mais aujourd'hui, je trouve que Michel Barnier est l'homme de la situation pour relancer là où c'est nécessaire le projet européen.
Jeudi dernier, Daniel Cohn-Bendit, l'émission Envoyé spécial sur France 2 a diffusé une enquête sur les liens étroits entre le sulfureux Steve Bannon, l'ancien directeur de campagne de Donald Trump, et le Rassemblement National. On voit une réunion, on voit des liens entre eux, éventuellement, potentiellement des liens financiers d'ailleurs. Marine Le Pen a menacé de porter plainte en diffamation pour dénoncer cette accusation. Plusieurs députés, à la suite de la diffusion de ce reportage, réclament l'ouverture d'une commission d'enquête parlementaire sur le Rassemblement National pour intelligence avec une puissance étrangère, avec la complicité de hauts fonctionnaires tenus au droit de réserve. Êtes-vous favorable à l'ouverture d'une commission d'enquête parlementaire sur le Rassemblement National et ses liens avec Steve Bannon ?
Ça fait plus d'un an que je dis que Bannon est à la manœuvre pour ces élections européennes. D'ailleurs, la preuve, où va Orban ? Où est M. Orban aujourd'hui ?
À la Maison Blanche.
Alors, tout le monde sait que M. Trump est un grand copain de l'Union européenne.
Steve Bannon n'est plus, lui, à la Maison-Blanche. Donc,
oui, non, mais enfin, Bannon était quand même à la stratégie. Il est toujours un grand soutien de Trump. Et Trump a compris qu'à la Maison-Blanche, ça va pas. Mais il l'a envoyé en Europe pour faire ce qu'il fait. Son travail de désintégration.
Vous voulez dire que Donald Trump, aujourd'hui, souffle sur les braises depuis Washington.
Bien sûr, mais absolument, en recevant M. Orban. Et deuxièmement, alors, si on y a une commission d'enquête, il faut faire une commission d'enquête sur les liens Bannon-Trump et les liens avec Poutine. Parce que ce qui est quand même incroyable, c'est que vous avez le Front National, ou le je suis un conservateur, j'arrive pas à dire Rassemblement.
Rassemblement National, ouais, vous allez y arriver.
Marine Le Pen, à vos yeux, elle est à la solde de Donald Trump aujourd'hui ?
Marine Le Pen, aujourd'hui, fait, alors à la solde, j'en sais rien, moi je prétends pas ce que je sais pas, mais Marine Le Pen, objectivement, comme on disait, les staliniens disaient, on est objectivement des agents du capitaine, elle est objectivement un agent de Trump, une agent de Trump et de Poutine. Mais dans la manière dont ils parlent, ils font de la politique, de la manière aujourd'hui où, quand ils parlent des réfugiés, quand ils parlent de l'immigration, quand ils parlent justement de l'Europe, et après, en même temps, c'est eux qui demandent, d'ailleurs qui ont demandé de l'argent à Poutine, et c'est eux qui, aujourd'hui, veulent une politique beaucoup plus orientée vers la Russie. Donc c'est, je crois, en tout cas, elle dessert absolument la nécessité de souveraineté de l'Europe, de la France dans l'Europe. Et ça, je trouve que politiquement, il faut le dénoncer.
Elle est anti-patriote à vos yeux, Marine Le Pen, lorsqu'elle prend ses positions ? Elle dessert les intérêts de la France.
Elle est anti-tout. Elle est anti-tout. Je sais pas, moi, je sais pas ce que c'est qu'un patriote. Hein, je sais, donc je vais pas dire elle est anti-patriote, moi. Je dis elle est anti-tout. Elle ment. Quand une candidate à la présidence de la République peut comparer l'URSS à l'Union européenne, tous les morts des goulags, les millions d'assassinés en URSS, ils se retournent dans leur tombe. Enfin, et on laisse passer les pires bêtises, les pires infamies de Marine Le Pen sur le Tchernobyl, l'identitaire et tout ça. Donc, elle est vraiment un danger pour l'avenir de la France et de l'Europe.
Pour relancer l'Europe, il faut reconstruire le couple franco-allemand. Vous êtes l'incarnation presque du couple franco-allemand à vous seul, Daniel Cohn-Bendit. Aujourd'hui, il est en piteux état. On voit les sujets de désaccord qui s'additionnent entre Emmanuel Macron et Angela Merkel.
Juste, mais...
L'Europe va dans le mur avec un couple pareil.
Oui, mais vous savez, l'histoire avance et je crois que on a besoin aujourd'hui pour arriver justement à relancer... par exemple sur la transition écologique, mais aussi sur la défense, mais aussi sur plein de sujets, on a besoin d'un accord entre la France et l'Allemagne. C'est un peu difficile en ce moment, c'est vrai, mais ce sont les conditions de la politique. Il faut arrêter de dire que la politique s'arrête ce matin à 8h58 à France Info.
Nous, on va s'arrêter en tout cas. Plus prosaïquement.
Oui, c'est un travail difficile, mais vous savez sur quoi je mise ? Sur l'entrée des Verts allemands au gouvernement.
Ah, les Verts allemands beaucoup plus raisonnables que les Verts français.
Mais non, pas seulement. C'est que eux, ils sont fascinés par Macron et que s'ils rentrent
Renaud
au gouvernement.
Si vous relancez notre invité quand on est déjà en retard, on va jamais y arriver.
Ouais, voilà.
Merci beaucoup, Daniel.
Moi, j'ai confiance en un couple franco-allemand.